Reste le gris, qui, lui, n'est pas une couleur mal aimée. Hein. Dans les enquêtes d'opinion, on pourrait penser gris, tristesse, chagrin, etc. Pas du tout, il est assez bien placé. Évidemment, les couleurs du premier rang occupent les premières places. Ces enquêtes d'opinion, qui donnent toujours les mêmes résultats depuis presque un siècle et demi, en Europe en tout cas, l'ordre, c'est bleu, couleur qui écrase tout. Hein. Une personne sur deux a le bleu pour couleur préférée. Il y a d'ailleurs des statistiques dans l'exposition. Vous verrez que ça confirme ce que je viens de dire. Et en général, c'est vert ensuite, puis rouge, puis noir, puis blanc, puis jaune, donc les couleurs du premier rang. Et ensuite vient l'orangé, le gris, et puis le trio de queue, rose, violet, orangé. Ça ne change pas. Et moi qui suis spécialiste du passé, je peux vous dire l'avenir. Dans 10 ou 20 ans, ça n'aura pas changé parce qu'on est là dans des domaines où les choses changent très, très lentement. Alors le gris, comme l'orangé et comme le rose, il a mis longtemps à trouver sa place dans l'ordre des couleurs et à être reconnu comme une coloration à part entière. Il n'a pas de place dans l'ordre aristotélicien des couleurs, hein, blanc, jaune, rouge, vert, bleu, noir. Le violet pourrait apparaître au cœur du Moyen-Âge dans ce classement et trouverait sa place entre le bleu et le noir. Les violets anciens n'ont aucun rapport avec le mélange du rouge et du bleu, mais c'est le mélange du bleu et du noir. D'ailleurs, le mot normal pour dire violet en latin, c'est sub niger, sous noir, aucun rapport avec le rouge. Comment définir le gris dans les sociétés anciennes? Soit on n'en parle pas, en latin on a beaucoup de mal à nommer cette couleur. On va finir par emprunter, en général on emploie un lexique qui tirait du vocabulaire des cendres, couleur de cendre, cinereus par exemple, mais surtout on va emprunter un terme germanique parce que chez les barbares germains, le gris a meilleure presse, probablement à cause de leur culte du fer. Ce sont des forgerons extraordinaires, hein, les Germains, bien plus que les Romains. Alors, ils ont un mot, un terme de base pour dire gris, ce que le latin n'a pas, grao, qui est resté en allemand moderne. Et ça va donner un latin tardif, ravus, gravus d'abord, puis le G va tomber, ravus. Qui est un gris avec des nuances bleutées ou verdâtres. On sent bien la parenté avec grune, grao, grune. Vraiment, c'est presque du latin médiéval. Quand on a des encyclopédies ou des traités de blason, même au Moyen-Âge, et qu'on parle du gris, les traités de blason sont très bavards sur les couleurs, on nous explique que le gris, au fond, c'est le mélange de toutes les couleurs. Si on mélange toutes les couleurs, ça doit donner un gris. C'est contraire à l'idée newtonienne. Hein, pour les physiciens, quand on mélange toutes les couleurs, ça donne du blanc, bien sûr, puisque Newton a décomposé la lumière blanche en rayons colorés. Et puis, si on est écolier avec une boîte de peinture et qu'on mélange toutes les couleurs, toutes les gouaches dans les godets, ça ne donnera pas du gris, ça donnera un marron épouvantable. Tout le monde peut en faire l'expérience. Donc c'est une idée un peu théorique que le mélange des couleurs donne du gris, mais c'est probablement parce qu'on ne sait pas où la classer. En fait, le gris n'a pas de statut tant que le noir n'est pas pensé comme un contraire du blanc. Et pour ça, il faut attendre des dates assez récentes. Dans les sociétés anciennes et médiévales, le vrai contraire du blanc, c'est le rouge. Hein. Le couple de couleurs important, c'est blanc-rouge. Là, on fait des contrastes. Blanc-noir, ça existe, mais c'est beaucoup plus faible. Hein. On le voit bien, d'ailleurs, quand le jeu d'échecs arrive en Occident vers l'an 1000, il vient d'Asie, c'est un jeu asiatique, et il oppose un camp rouge et un camp noir. Alors ça, rouge contre noir, c'est rien du tout pour la sensibilité occidentale. Donc il faut changer au moins une des deux couleurs. Et on ne va pas remplacer tout de suite par blanc-noir, les blancs contre les noirs. Non, ça, il faut attendre l'époque moderne. On va faire un camp blanc contre un camp rouge. En Occident, c'est ça qui est le plus fort comme couple d'opposition. Et pendant 3, 4, 5 siècles sur l'échiquier, on a des cases et des pions blancs contre des pions rouges. Mais avec l'imprimerie, avec la gravure, ça va changer. Le livre imprimé crée définitivement le noir comme contraire du blanc. Et ça devient un couple de couleurs qui s'oppose fortement, plus que blanc-rouge à partir du XVe siècle, puis peu à peu d'ailleurs un couple de couleurs qui va prendre un statut particulier, puis finir par sortir de l'ordre des couleurs quand Newton découvrira le spectre. Mais comme on sait faire un mélange de blanc et de noir et que ça donne du gris en peinture et un peu en teinture, le gris va finalement être pensé comme une couleur à mi-chemin entre le blanc et le noir et suivre l'histoire du blanc et du noir. Et comme le blanc et le noir, à partir de la fin du XVIIe ou du XVIIIe siècle, être pensé comme une non-couleur ou pas une vraie couleur. Cette triade-là est sur les marges et même si les choses ont changé depuis pas mal de décennies, nous vivons encore un peu sur l'opposition qui était courante quand j'étais enfant. Les couleurs d'un côté, le noir et blanc de l'autre. Il faudrait dire d'ailleurs le noir-gris-blanc, puisque au cinéma, à la télévision et en photographie, de manière plus générale, depuis l'apparition de la photographie, le noir et blanc, c'est surtout des jeux de gris. Hein. Donc ça vient tardivement, mais ça donne au gris un certain statut qui est le même que celui du blanc et du noir, et l'idée qu'il se situe à mi-chemin. Il existait quand même comme coloration auparavant, et il n'était pas regardé comme une couleur ou une coloration négative. On lui trouvait un certain nombre de vertus, justement, parce qu'il était discret. Un dossier très intéressant de ce point de vue-là, c'est celui de l'habit franciscain. Les franciscains, c'est un ordre religieux qui apparaît au début du XIIIe siècle. On est en période de création d'ordre d'abord monastique qui s'oppose à l'ordre bénédictin. Les moines bénédictins étant en noir, les ordres nouveaux, comme les cisterciens, prennent le blanc comme couleur emblématique. Et puis les ordres religieux nouveaux du XIIIe siècle, qui ne vivent plus dans des monastères, mais en ville, au milieu des laïcs, cherchent d'autres colorations. Et les franciscains, pour leur robe, comme ils ont fait vœu de pauvreté extrême, refusent de teindre leur robe, mais même de la laver pour les plus extrémistes. Et alors, cette robe de laine non teinte, selon ce que dit la règle, pas la première règle, mais la deuxième, à l'usage, elle finit par prendre une couleur grisâtre. Et dans le vocabulaire, les laïcs qui vivent aux côtés des franciscains dans les grandes villes d'Occident finissent par les appeler les frères gris. Voilà, c'est un nom de religieux. Ce ne sont pas des moines, hein, ce sont des frères. Donc ce sont les frères gris. Et saint François d'Assise lui-même, l'immense saint François d'Assise, devient frère gris. Et quand, plus tard, Henri IV prononce son célèbre juron « ventre saint gris », c'est une obscénité épouvantable, ça veut dire « par le ventre de saint François », »,« par le bas-ventre de saint François d'Assise », quelque chose comme ça, hein, « ventre saint gris ». Alexandre Dumas en fait un grand usage dans les Trois Mousquetaires et dans les volumes qui suivent. Mais il y a l'idée, donc, d'une couleur de tempérance, de modestie, d'humilité, de discrétion, de pauvreté aussi, symbolique que le gris partage pendant longtemps avec le brun. Mais le brun, c'est encore plus pauvre que le gris. Et puis, ça peut être vertueux, admirable, surtout à la fin du Moyen-Âge et dans les pays protestants à partir du XVIe siècle, les couleurs trop vives sont jugées indécentes. Un bon chrétien se doit de les fuir. Alors le gris, qui passe pour pas vif du tout, commence à être regardé avec intérêt dans la peinture d'objets et de tableaux qui prennent place dans les églises. On commence à peindre en grisaille, c'est-à-dire on refuse des couleurs vives. On peint dans des camaïeux de gris, de noir, de blanc. Le mot grisaille, d'ailleurs, apparaît au XIVe siècle. Un triptyque ouvert polychrome sera refermé pendant la période de l'Avent et du Carême, et les peintures sur les volets extérieurs, une fois que le triptyque est refermé, sont peintes en grisaille. C'est plus moral pour ces périodes d'attente et de pénitence. Donc le gris peut être vertueux, puis peu à peu il s'associe à des idées plus modernes, notamment du côté de la science, qui a toujours une méfiance pour les couleurs trop vives. C'est la couleur, à partir de la deuxième moitié du 19e siècle, du cerveau, des cellules grises du cerveau, celles qui ont à voir avec l'intelligence. Ce sont les petites cellules grises chères à Hercule Poirot dans les romans d'Agatha Christie. Et c'est la couleur aujourd'hui de tout ce qui est, pas tout, mais presque tout ce qui est high-tech. Hein. Il va de soi que le même ordinateur, du même modèle, s'il a un coffrage gris, il marchera beaucoup mieux. Il sera plus performant qu'un le même ordinateur avec un coffrage rose ou orangé. Ça va de soi, bien sûr. La couleur joue un rôle très, très important. Et depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, il y a dans nos sociétés, pas seulement pour le vêtement contemporain, une mode du gris, spécialement du gris clair, qu'on avait déjà connu dans le passé, notamment au XVIIIe siècle. Le XVIIIe siècle aime les teintes douces et les tons pastels, du moins dans la société la plus favorisée. Hein. Pour la première fois au XVIIIe siècle, ce que nous appellerions, nous, les classes moyennes, ont droit aux couleurs vives, parce que les teinturiers ont fait de grands progrès. Avant, les teintures vives, c'était pour les riches. Eh bien, à partir du XVIIIe siècle, les classes moyennes, pas les pauvres, mais les classes moyennes ont droit aussi à des couleurs vives pour le vêtement et pour l'étoffe. Alors, naturellement, par réaction, les classes les plus favorisées font exprès de délaisser les couleurs vives et adoptent les teintes pastels. Et dans ces teintes pastels, les jaunes pâles, les roses, les bleus ciel, les verts très pâles, le gris trouve sa place. Il y a une mode pendant une quarantaine d'années, entre 1730 et 1770, des gris, spécialement la nuance que nous appelons, nous, gris-perle. Puis ça s'éteint et c'est reparu depuis les années 2000, me semble-t-il, à la fois dans le vêtement, c'est très chic, gris et gris, gris et blanc, dans les hôtels 4 ou 5 étoiles, tout est gris clair et blanc, hein, c'est un moyen d'éviter toute faute de goût, et je pense que le gris est promis un assez bel avenir dans les années qui viennent. Voilà, je n'ai pas pu dire naturellement, mais s'il y a des questions, interrogez-moi sur ce que j'ai dit, mais aussi sur ce que je n'ai pas dit. Merci à tous.